Bonjour à tous. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Peut-être avez-vous des fardeaux que vous portez. J'ai croisé, je suis passé à côté d'une voiture cette semaine sur la chaussée près de chez nous et j'entendais des cris. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Ma fenêtre était ouverte de 2 cm. Et c'était dans une Porsche Cayenne. La maman, excitée, joyeuse, en apparence, et les enfants qui s'agitaient à l'arrière et en train de crier avec joie. Il y a encore des gens joyeux. Il y a encore des gens qui ont l'air de vivre peut-être dans un autre monde. Oui, ça existe. Souvent, lorsque nous venons à l'Église, nous sommes assez graves, assez sérieux. Je pense que l'Église est une affaire sérieuse. La Bible nous le dit d'ailleurs. Mais rien ne nous empêche aussi de partager notre joie. Nous la partageons aussi dans nos réunions de prière. On a été pas très nombreux, mais ceux qui étaient là étaient heureux de partager. Alors nous poursuivons la prédication dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 23. On ne va pas tout lire dans la foulée. Mais dimanche dernier, c'était jour de vote. Mais ça tombe bien, en fait. Un vote démocratique, dit-on, hein, oui. Certains ne vont pas voter. Et préalablement, chaque parti avait présenté son programme, si vous vous y êtes intéressé ou pas. Certains candidats se sont même présentés personnellement par un courrier dans nos boîtes aux lettres pour recueillir les voix des électeurs. Au vu des résultats, les uns se sont félicités de leur progression. Parfois, on a l'impression que tout le monde a gagné. Et d'autres ont été déçus du choix des électeurs. Et c'est alors que dans bien des villes et communes, les négociations pour constituer une majorité se sont multipliées. Ce sont d'âpres discussions, des coups bas, des trahisons parfois. Et les unions d'aujourd'hui ne seront pas les unions de demain. Les tensions grandissent avec la gravité des questions à traiter. Et ça peut se comprendre surtout quand on parle budget. Mais quand on ouvre la Bible, on est dans un tout autre contexte. Et c'est parfois difficile de s'extraire du contexte mondain pour se replacer dans une tout autre perspective. Et c'est la situation dans laquelle se trouve aussi l'église de Corinthe. L'église est, ou devrait, connaître d'autres valeurs et d'autres comportements. Elle n'est pas toujours très différente dans son vécu que ce qui se pratique au dehors de l'Église. Nous, non seulement il y a des partis pris, mais aussi nombre de dérèglements. Nous ne les verrons pas aujourd'hui parce qu'ils viennent plus tard dans l'Épître. Mais dans cette grande ville de Corinthe, environ 700 000 habitants où on commerce et où on révère différents dieux, les chrétiens sont appelés à vivre et à se comporter d'une manière toute différente. L'apôtre commence le chapitre, premier verset, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Dans ce chapitre 3, l'apôtre manifeste contre des pratiques non conformes à la pensée de Christ. C'est pourquoi au verset 16, il rappelle que c'est Dieu qui est au centre et pas l'homme. Il nous fait découvrir des querelles futiles. Et il saisit l'occasion d'avertir les croyants de plusieurs manières. Et il y a toujours deux pistes possibles pour les croyants. Soit ils sont dirigés par l'esprit, et soit ils sont dirigés par leur nature propre. Ça ne va pas de soi, comme nous pourrions le penser, d'agir selon l'esprit de Dieu. Il y a assez de questions qui nous chagrinent les uns et les autres, n'est-ce pas, pour pouvoir affirmer que tout n'est pas toujours aussi spirituel que ça en a l'air. Paul ne les considère pas, les Corinthiens, comme des non-croyants, malgré ça, comme non régénérés, mais il dit que leurs attitudes et leur comportement est semblable à celui d'hommes et de femmes qui ne sont pas régénérés. Et voilà qui est grave et peut-être étonnant. Ils sont comparés à de petits enfants en Christ. Et on a envie de dire, mais non Paul, tu exagères. Comment peux-tu dire cela s'il nous disait ça ce matin ? Et pourtant, il dit y avoir été avec la petite cuillère. Mon petit-fils Arthur et sa première purée de carottes. Je crois que Christelle nous a envoyé cette photo. Mais il est là devant ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'aurait pas pu assimiler ni mâcher un morceau de steak. C'est pas possible. Et l'estomac n'aurait pas accepté. Il a d'abord fait la grimace, et puis la persévérance de la maman a permis que la cuillère passe, et peut-être une seconde, et puis, finalement, c'est peut-être pas si mauvais, mais on l'accepte. Aujourd'hui, il rentre de l'école et il dit « j'ai faim ». Et au petit déjeuner, je pense que le lard et les œufs brouillés sont particulièrement appréciés. Le temps a passé, en effet. Et pourtant, pour les Corinthiens, le constat spirituel est plutôt désolant. Dans la deuxième partie du verset 2, n'est-ce pas ? Car vous ne pouviez pas la supporter. Je vous ai donné du lait. Moi, j'aime bien le lait, j'ai toujours bu beaucoup de lait. C'est sans doute, ça me vient de l'école primaire où on devait écouler les surplus de lait de l'Union européenne, alors on avait la brigade M, la brigade du lait, et on recevait du lait. Et moi, j'en faisais partie, et j'étais un fervent buveur de lait, et ça m'est resté. Et au début du verset 3, « Parce que vous êtes encore animés par votre nature ». Vous êtes encore incapable de supporter une nourriture solide parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes, selon la version Sommer. Peut-être avons-nous une trop haute idée de notre spiritualité. Peut-être sommes-nous vite contents. En cela, on ne serait pas très différent des Corinthiens. Paul ne les infantilise pas pour autant. On dit « Ah oui, moi, il les considère comme des petits-enfants ». Ce n'est pas vrai. Au contraire, il veut éveiller leur conscience par ces images. Il les aime comme ses enfants. Alors, quels sont les signes de leur faiblesse spirituelle? Le signe de la spiritualité défaillante, ce sont les rivalités, les disputes, la jalousie, ce qui ressemble à s'y tromper, à ce que les non-croyants vivent, les hommes naturels hors du lien de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas de différend avec d'autres? Vous n'avez pas de friction? Des situations dans lesquelles on dit « Ouf, non, je ne vais pas lui parler de ça parce que ça va mal se passer. » Paul critique sévèrement, sous cet angle, l'attitude des chrétiens de Corinthe. Il les appelle à changer en tant que chrétiens. « Ne vous comportez pas de manière toute humaine », écrit-il à la fin du verset 3. « Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. » Ah bon ? On a l'habitude de dire que c'est un miracle de Dieu. Et c'est vrai. Nous formons avec Dieu, en Jésus-Christ, un binôme. Mais pas que, comme on dit aujourd'hui. C'est une expression qui revient partout. L'autre binôme est Dieu et l'Église. Au niveau global, lorsqu'on envisage la mission ou l'Église persécutée, comme nous le verrons là le mois prochain, bien sûr, le niveau global, mais aussi le niveau local, donc moi et les autres chrétiens dans l'Église locale. Ah, mais ils ne sont pas tous sympathiques. Je ne m'y retrouve plus vraiment. Alors je me replie sur moi-même. Est-ce cette conclusion que nous devons tirer d'une si faible participation aux réunions de prière de l'Église? Pourtant, les deux dernières étaient accessibles à distance. On fait des efforts pour que ça marche bien et que ça marche mieux. Je dois dire que ceux qui étaient présents ont joui de la communion fraternelle dans la liberté des enfants de Dieu, dans l'amour, et que cela fut bienfaisant. À quand la prochaine? Voyez le programme. À propos de prière, en Jean 17, dans les versets 20 à 22, je lis, « Jésus, après avoir prié pour ses disciples, dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un. » C'est merveilleux. « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. » Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Où est-ce que nous nous retrouvons dans ce tableau? Dans cette prière de Jésus, je roule pour moi ou je roule avec Dieu et pour lui? Alors souvent le pardon se doit d'être présent pour trouver l'unité. Il y a trop d'accrochages, trop de causes de conflits entre les hommes et les femmes, même dans l'Église, pour que l'on puisse faire l'impasse sur le pardon, pour trouver l'unité. Et encore tout ce qui contribue à l'unité, comme la prière, et on oublie parfois le service. J'ai entendu un pasteur qui disait qu'il y avait 8 personnes qui s'occupaient du ménage dans l'Église. Et puis, il n'y en a plus eu que 5. Et puis, il n'y avait plus que 3 personnes. Interrogez Marie-Christelle, vous comprendrez. Et les 3 qui restaient, ben, elles ont dit « moi, je ne continue plus ». C'est trop lourd. J'ai plus envie. Dans le service, et il y a toutes sortes de services, il y a cette manifestation de l'unité avec l'Assemblée. La générosité, l'encouragement par la reconnaissance et la présence fidèle, à l'opposé de la nonchalance. Le reproche de Paul est le suivant : vous ne vivez pas selon l'Esprit. Nous parlons aisément de glorifier Dieu, mais le premier moyen de glorifier Dieu est de vivre par l'Esprit. C'est une vie marquée par l'amour. Réfléchissons à cela pour nous-mêmes maintenant. Il y a bien ici matière à rappeler ce que Paul écrit aux Galates au sujet des fruits de l'Esprit, en Galates 5, 22-25. C'est tellement connu qu'on passe dessus comme si c'était un billard. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et on a envie de dire, arrêtez, c'est trop. C'est trop. C'est 3 cuillères solides. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, verset 24, ont crucifié, dans Galates, leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Peut-être que certains vont dire, mais il n'y a pas de danger. Cela fait longtemps que je me suis replié sur moi-même. N'y a-t-il donc plus rien à découvrir dans la relation en Christ? Oh, quelques proches me suffisent, et les réseaux sociaux feront l'affaire, ou peut-être pas. Alors qu'ils transpirent crainte, doute et déception amoureuse, selon un article du Soir d'hier. Romains 6, au verset 4, nous rappelle que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. J'ai la cuve derrière moi, ici. En relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. La croix, sans le Christ, manifeste cette résurrection et cette vie nouvelle qui est la nôtre, ou qui devrait l'être. Dans le même chapitre de Romains, au verset 20 à 22, je lis « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors ?» Et là, il y a une phrase qui est très interpellante, n'est-ce pas ? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Paul emploie le « vous ». Il parle à toute l'Église, mais surtout à ses contradicteurs. Dans notre chapitre, au verset 6 à 8, chapitre 3 d'1 Corinthiens, je commence par le verset 5, après tout, « Que sont donc Apollos et Paul ?» On entre dans les exemples de notre chapitre. Grâce des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Il y a diversité de ministères. Paul n'était pas le même qu'Apollos. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Mais les ministères sont un, avec un même objectif. La gloire de Dieu, la croissance du chrétien dans l'Église. Et troisièmement, la direction souveraine de Dieu, uniquement par l'Esprit de Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur pour cela. Et quatrièmement, nous sommes redevables de l'effort que nous mettons à faire progresser l'œuvre de Dieu. On a chanté tout à l'heure « par nos efforts ». Chacun regarde pour lui-même. Quels sont tes efforts ? C'est facile de chanter « par nos efforts ». Nous sommes redevables de l'effort que nous mettons à faire progresser l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi existe le principe des récompenses. Il y a des récompenses. On passe notre temps dans l'Église à dire que nous ne méritons rien, que Christ a tout accompli à la croix. Et pourtant, il est question de faire des efforts. Et il est question de récompenses. Verset 8. Lisons. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de sa propre nonchalance, de son propre travail. Ensuite, après le champ, le bâtiment, au verset 9 à 15, vous êtes l'édifice qu'il construit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée. J'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Il y a d'abord des matériaux précieux. Si vous avez de l'or, vous allez chez un négociant en or, il va regarder, il va passer avec votre produit en or, et il va le glisser sur une plaque et puis il va mettre une goutte de réactif. Et il va dire « Ah, c'est de l'or !» Et il va même dire « C'est de l'or de 18 carats ou 24 carats, c'est plus rare. » Ces matériaux précieux, s'ils passent par le feu, vont être épurés, purifiés. Les matériaux bien plus légers vont être consumés par le feu. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Plus question de faux-semblants, plus question de mettre un costume qui cache notre véritable réalité. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste. comme un homme qui réussit à échapper au feu. Hein, comment ? C'est ce qu'on a vu dans notre étude biblique il y a 3-4 semaines. On a vu ce verset. Être sauvé tout juste. Bon, quand on est à l'Athénée, au lycée, au collège, on dit, bon, ça va, je passe tout juste pour cette branche-là, je suis content. Mais oui, Dieu ne renie pas sa parole. Il sauve et il garde celui qui est à lui. Mais à nous de voir, est-ce que nous souhaitons être sauvés, mais tout juste, comme dit le texte ? L'Église de Corinthe était divisée avec de véritables groupes constitués autour de serviteurs éminents. Paul montre que c'est une grave erreur de construire la vie de l'Église sur un homme, fût-il même doué, aimable, affable. L'état spirituel de l'Église est resté très faible et nous venons de voir les aspects charnels de leur comportement, les disputes et autres. Au chapitre 4 et au verset 18, il est question de leur orgueil, de l'idolâtrie. Au chapitre 10, au verset 14, des désordres dans le déroulement du culte. Au chapitre 11, un attrait exagéré pour les dons spectaculaires. Et dans les chapitres 12 et 14, encore des vues erronées sur la résurrection de Christ. Aucune église ne semble avoir causé autant de difficultés à l'apôtre. Et pourtant, il leur est sincèrement attaché. Et il les aime comme les parents qui ont une affection particulière pour leurs enfants terribles. On trouve ça dans le reste de l'Épître aux Corinthiens et dans la deuxième aux Corinthiens aussi. Les Corinthiens, habitués à se regrouper suivant leurs convictions philosophiques, on parle là hors Église, d'un chef d'une école de pensée, ont reproduit leurs habitudes dans l'Église en constituant des partis qui se réclament de différents serviteurs de Dieu. On passe un peu vite là-dessus. L'un est pour Apollos, l'autre est pour Paul, l'autre est pour Céphas. Mais c'est plus que ça. Ce sont des groupes qui se sont constitués. Apollos, venu à Corinthe, peu après le départ de Paul, avait fréquenté Alexandrie, c'est la ville la plus cultivée de ce temps. Il avait fréquenté les écoles de rabbins. Il s'exprimait avec élégance et plaisait aux Grecs par sa rhétorique et aux Juifs par son argumentation rabbinique. Son ministère a été en bénédiction aux Corinthiens. En Actes 18-27, nous dit-on à son sujet, « Il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. C'est un frère aussi que Paul recommande. Apollos n'est pas plus responsable de ceux qui ont créé le groupe qui le soutient, que Paul n'est responsable du groupe de ses propres partisans. Céphas, probablement que les partisans de Céphas étaient fascinés par le charme des récits d'un homme qui, quand il racontait les scènes de l'Évangile, pouvait dire « J'ai vu », comme me dit mon petit-fils, Arthur, quand je lui montre quelque chose, « J'ai vu », et puis il s'en va. Eh bien, ils ont aimé ça. Et si Pierre n'a jamais été à Corinthe, ses adhérents pouvaient être venus de Palestine, de Syrie, où ils avaient pu faire sa connaissance. C'était des judéo-chrétiens, ce groupe-là, très attachés à la loi. Et ils considéraient sans doute le ministère de Paul parmi les païens comme suspect, parce que Paul avait persécuté les chrétiens, alors qu'ils n'avaient pas connu Jésus. Ils avaient de la peine à mettre Paul sur le même pied que les 12. Vous croyez que c'était facile pour Paul ? Et puis il y avait le parti de Christ. Nous passons facilement sur cette question, mais moi aussi, dira Paul, je suis de Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'il y avait un parti de Christ. sans doute des chrétiens qui auraient connu personnellement Jésus, qui seraient attachés, dit-on, particulièrement à la ligne doctrinale de Jacques, le frère de Jésus. Et ils auraient été irrités des préférences exclusives des autres partis. Alors voilà un peu le cafouillage de l'Église de Corinthe. C'est pourquoi Paul dira aussi, vous prétendez avoir des visions, mais moi aussi j'en ai. Et en 2 Corinthiens 11, versets 22 à 23, nous comprenons mieux pourquoi Paul dit, ils sont hébreux, moi aussi, israélites, moi aussi, de la postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs du Christ, c'est une folie que je vais dire, je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ, au verset 11 de notre texte. Mais forcément, on construit dessus, soit avec des matériaux précieux, soit avec des matériaux qui vont s'envoler en fumée. Paul fait donc ressortir la qualité du travail des serviteurs fidèles. Le travail de chaque chrétien aussi est souvent divers, et nous verrons sans doute aussi une partie de notre propre travail consumé. À nous de voir la manière dont nous voulons participer à l'œuvre de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avions évoqué ce verset 15 dans notre étude biblique. « Sauvés parce que Dieu ne renie pas sa parole envers ses enfants, mais sauvés comme au travers du feu, je le répète. » Au psaume 119, les versets 9 à 16, nous rappellent cette aspiration à une vie proche de Dieu et à une rigueur dans la conduite et dans tout ce que l'on fait. Verset 9, « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées et j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à scroller sur mon smartphone. À suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. 2 Corinthiens 5, 10 dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. » 2 Corinthiens 5, 10. Ça n'est pas écrit pour les gens du dehors, n'est-ce pas ? C'est écrit pour l'Église. Et puis, il y a le temple, au verset 16 et 17 de notre chapitre. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. » C'est encore là un pluriel. Nous prenons beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses que nous devons prendre personnellement, mais il y a des choses que nous devons prendre en tant qu'assemblée. Dieu est présent dans l'Église par son Saint-Esprit en chacun de ses enfants. Et comme le disait un prédicateur alsacien qui était venu nous voir il y a des années, il disait « Dieu n'est rien avec des places vides sur les bancs ». Le caractère sacré de l'Assemblée est caractérisé par la présence du Saint-Esprit et nous sommes saints, mis à part. Paul remet donc bien les choses à leur juste place et chacun devant ses responsabilités. À nous de choisir de ne pas affaiblir l'Église, retenons bien ça, de ne pas affaiblir l'Église par nos choix futiles ou carrément erronés. Regardons nous les uns les autres pour ce que nous sommes en Christ. Où sont les obstacles à une telle communion ? Nous terminons par la lecture des derniers versets du chapitre 3, à partir du verset 18. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous, cherchons, si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, « Il prend les sages à leur propre piège. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Tout est dit. Amen.